France Culture, il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
Alors dans votre journal des idées aujourd'hui, vous allez reparler des juges pour enfants du tribunal de Bobigny qui lance un appel au secours dans le monde sur l'état de la justice pour les mineurs.
Oui, et il rappelle que s'ils s'occupent des délinquants, ils sont aussi juges des mineurs en danger et qu'à ce titre, ils doivent répondre à l'exigence de protection des enfants, parfois très jeunes, que leur situation familiale met en péril. Or, les mesures d'assistance éducative exercées pour la plupart par le secteur associatif habilité sont actuellement soumises à des délais de prise en charge inacceptables en matière de protection de l'enfant, dénonce-t-il, c'est le juge. Ce temps, donc, il s'écoule jusqu'à 18 mois entre l'audience au cours de laquelle la décision est prononcée et l'affectation du suivi à un éducateur. Les juges de Bobigny dénoncent un manque flagrant de personnel lié aux restrictions budgétaires, à commencer par le tribunal lui-même, où les greffiers, en nombre insuffisant, ne peuvent remplir leur mission. Leur absence aux audiences en assistance éducative, pourtant illégale, est à présent la norme. Quant aux jugements pénaux, ils sont notifiés dans des délais d'environ un an, ce qui leur ôte véritablement tout sens, dans un département, la Seine-Saint-Denis, où les actes de délinquance sont nombreux. Dans son reportage publié sur le site de l'hebdomadaire Le Point, le quotidien d'un juge des enfants, Laurence Neuer montre bien cette double responsabilité car les jeunes victimes de maltraitance finissent souvent par basculer dans la délinquance s'ils ne sont pas correctement suivis. Elle insiste sur le rôle de l'éducateur, acteur clé de l'enfance en danger et qui assiste le juge dans ses missions et sur la difficulté à choisir la mesure appropriée, assistance éducative en milieu ouvert, dans la famille, à l'école ou auprès du médecin de famille, placement au domicile de l'un des parents ou en milieu fermé au sein d'un foyer, la décision la plus difficile, car ce juge hybride qui protège ou sanctionne tour à tour est aussi un juge 3 en 1, juge d'instruction, de tribunal et de l'application des peines. Dans Mediapart, Laurent Mauduit élargit la focale sur le projet de loi de réforme de la justice qui a été voté au Sénat et dont l'examen à l'Assemblée devrait commencer le 14 novembre en séance publique et dès le 7 novembre en commission. Il rappelle qu'une première loi sur le secret des affaires validée le 26 juillet dernier par le Conseil constitutionnel a constitué une entrave grave pour les journalistes enquêtant sur la vie des affaires et une menace pour les lanceurs d'alerte qui peuvent les aider. Dans le projet de réforme qui arrive à l'Assemblée, ces dispositions sont confirmées. La publicité des audiences et des décisions de justice est remise en cause lorsqu'elles portent atteinte au respect de la vie privée ou au secret des affaires. En l'occurrence, souligne Laurent Mauduit, la protection de la vie privée a bon dos et c'est en vérité surtout le secret des affaires qui est ici en jeu. Conclusion provisoire, avec ces deux lois, ce sont deux principes démocratiques majeurs qui sont mis à mal, le droit de savoir des citoyens et le droit à une justice libre et indépendante garantie par la publicité de ses audiences et de ses jugements. C'est surtout le cas si ces jugements portent sur des sujets majeurs d'intérêt public. Dans la foulée de ces restrictions, une disposition vise à l'anonymat des magistrats. Pourtant, le nom des juges est essentiel pour la démocratie, pour la confiance des citoyens dans la justice et pour prouver des cas de conflit d'intérêts. Pratiquement aucun pays dans le monde, y compris la Chine, n'anonymise les noms des magistrats à part la Russie. Et Laurent Mauduit rappelle que dans l'histoire de France, les seules juridictions à masquer les noms des magistrats furent les fameuses sections spéciales, c'est-à-dire les tribunaux d'exception sous Vichy. La mainmise de l'exécutif sur le pouvoir législatif, c'est une tendance lourde analysée par Jacques Rinen, dans son dernier livre, publié chez Gallimard sous le titre « Le théâtre juridique, une histoire de la construction du droit ». L'enquête remonte à l'Antiquité pour déterminer les rôles respectifs des trois forces créatrices de la normativité juridique, la science du droit, la législation et la jurisprudence. Depuis la Constitution de 1958, observe-t-il, le concept de pouvoir législatif est devenu ambigu car le Parlement n'a plus le monopole de la fonction législative. sans compter le recours aux décrets, aux ordonnances, l'arme du 49-3 ou celle du vote bloqué, l'initiative revient le plus souvent au gouvernement. En pratique, le Parlement est appelé à voter chaque année 10 fois plus de lois issues d'un projet de texte gouvernemental que d'une proposition parlementaire. Dans ces conditions, que devient la séparation des pouvoirs? Car le Parlement représentant la volonté générale n'est plus le maître de la loi. Et aujourd'hui, la loi française se trouve sur une base constitutionnelle, en grande partie entre les mains de ce pouvoir que nos révolutionnaires avaient nommé exécutif, destiné à n'en être que le bras armé et serviteur fidèle.